commence par le verset Ve'eleh toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham relie les Yitzhak. C'est-à-dire les toldot, vraiment, vont commencer avec Yitzhak. C'est la première figure, si vous voulez, d'un fils de l'homme qui va vers la réussite. Alors qu'Ishmaël est une impasse. C'est clair ? Vous avez compris ? Bon. Ishmaël, c'est quoi ? Eh bien, c'est une répétition par copie conforme des multiplications. D'un coup, l'identité Ishmaël, qui est une impasse de la descendance d'Abraham, se multiplie à l'infini. Alors que pour engendrer Isaac, il faut le faire. Vous avez remarqué ça ? Pour engendrer Ishmaël, c'est facile, et on passe au duplicateur. Une humanité entière, complète, Ishmaël. Ça veut dire qu'il y a la multiplication, mais pas la fructification. Cette fructification, elle passe par Yitzhak. Et c'est pour ça, c'est pourquoi c'est difficile. Allez. Abraham, avec n'importe quelle matrice d'engendrement, et d'après le Midrash, Agar était la fille du Pharaon, ça veut dire l'identité de l'Égypte de ce temps comme matrice d'engendrement, peut vous donner des milliards d'Ishmaël. Il n'est pas stérile pour Ishmaël. Pour engendrer Isaac, c'est difficile. C'est parce que c'est par là que les Toldot passent. Vous avez compris le problème ? Là, vous retrouvez ce thème très important dans ce que notre maître appelait l'historiosophie, que les mères d'Israël sont empêchées d'enfanter jusqu'à ce que la mutation puisse être donnée. Une interdiction d'enfanter des approximations. C'est clair ? Alors c'est quoi ? Il y a parfois des longs temps de stérilité apparente jusqu'à ce que la mutation apparaisse. Et c'est vrai pour Sarah, vous vous rappelez ? C'est vrai pour Rivka, c'est vrai pour Rachel, et c'est vrai pour Hannah, et c'est vrai pour la mère du Messie qui attend depuis le commencement du monde que ce soit celui-là, et pas des approximations. Pas des images. Oui. C'est le fils de Léa, pas de Rachel. Il faut poser la question, pourquoi les enfants de Léa et pas de Rachel? Vous voulez qu'on en parle? Je voudrais faire l'analyse. Bon. Et vous retrouverez d'ailleurs le verset 2, vous le reliez à cela. Lorsque Naomi reçoit la bête pourvue, la bénédiction de Tamar avec Judas et avec Yehuda, alors la bénédiction est formulée comme si au nom de Rachel et Léa qui ont toutes deux construit la maison d'Israël. Et Rachel vient avant Léa dans la bénédiction de Dieu. Alors que l'ordre aurait été Léa et Rachel. Vous verrez dans ça. Bon, on va revenir là-dessus. Mais pour dire ceci, c'est que la première fois que la tradition va indexer l'idée des Toldot, c'est à Yitzhak. Vous comprenez? Alors que déjà nous avions inversé. À propos de qui? Et les Toldot avant Yitzhak? Noir. Okay. Mais là, nous sommes encore dans, si vous voulez, ce surplace de enfantement par copie conforme, enfantement par copie plus ou moins conforme, mais pas l'engendrement, c'est-à-dire l'étape de mutation d'identité qui fait apparaître le progrès de l'engendrement qui aboutira au fils de l'homme. Vous comprenez le problème? C'est-à-dire, dès le début, on est averti que cette matrice d'engendrement de l'identité messianique, c'est cela qui s'appelle la société d'Israël. Et je le dirais de façon inverse, la société d'Israël, c'est cela, dans le récit biblique, cette matrice d'engendrement qui se cherche à travers l'histoire. Vous avez compris le problème? Et je disais souvent, quand je parle de ces choses, vous voyez à quel point la mentalité chrétienne a paganisé tous ces thèmes-là. Parce que derrière, vous avez, je l'ai signalé, je ne sais plus quel matin, vous avez tous ces soi-disant mystères de la pensée païenne chrétienne, hein, le mystère de la Vierge. Hein. C'est qui? C'est la figure païenne de la société d'Israël. Alors en passant, on lui donne le nom de la sœur de Moïse. Hein. Pas pour rien, vous savez qu'elle peut. Bon. Alors ici, c'est passé il y a 2000 ans. On vous a rédigé un mythe. Et il y avait des juifs pour ça. Des faussaires de l'histoire, des rédacteurs des évangiles. Je reviens. Mais comme on a parlé de l'histoire réelle d'Israël au niveau d'un mythe païen. Vous voyez ? Alors le chrétien se casse la tête. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Une vierge qui enfante du Saint-Esprit le Fils de l'homme. De quoi il s'agit ? C'est clair. Il s'agit de la communauté juive, tout simplement. Vous avez compris le problème ? mais qu'on a érigé en idole. En idole païenne, les mots ont leur sens simple. C'est-à-dire, un jour, les chrétiens se retrouveront réveillés de leur cauchemar en retrouvant le contenu de leur foi, mais épuré. Ils vont découvrir l'histoire. Je vais vous raconter ça sous forme anecdotique. Ça me revient dans ma mémoire. Un jour, il y a très très longtemps, j'ai participé d'un séminaire d'étudiants internationaux avec les étudiants juifs. Et puis, je me rappelle d'une discussion avec un Yougoslave qui était marxiste, mais d'origine chrétienne. Et puis, il me racontait comment il avait perdu la foi. Et je me rappelle de cette phrase. Je me dis, mais vous comprenez, comment moi, qui suis un croate, je peux croire dans des mystères qui concernent une tribu perdue des enfants d'Israël? Quel rapport avec les Carpates, hein? Quel rapport avec moi, Yougoslave? J'ai compris ce que voulaient dire les apôtres quand ils ont commencé à raconter l'histoire juive. Et que les juifs leur demandaient, mais qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là? Ils disent, on ne peut pas comprendre, c'est des mystères. Qu'est-ce que ça veut dire les mystères? Il n'y a que les juifs qui sont dans le coup, c'est une affaire de famille. Okay? J'ai compris le problème. C'est ça un mystère. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous comprenez la différence qu'il y a entre mystère et secret. Mystère, ça veut dire une connaissance qu'on ne peut pas avoir. Secret, ça veut dire une connaissance qu'on peut avoir, mais qu'on a cachée. Les secrets de famille. Les secrets, il faut les taire. C'est ce que me dit ma secrétaire. Bon. Et alors, nous n'avons pas le mot mystère en hébreu. Nous avons le mot secret. Mais traduit en langage chrétien, ça devient des mystères. Et c'est très clair à comprendre. Imaginez les apôtres racontant les secrets de l'engendrement de l'histoire d'Israël à des goïms, présentant ça comme la voie du salut si tu y crois. Mais de quoi il s'agit? De quoi tu parles? Tiens, ça c'est des mystères. Vous voyez, c'est clair? Mais ça veut dire c'est des mystères, c'est-à-dire seuls les juifs peuvent comprendre. Et c'est quand les juifs ne comprennent plus que... Alors, vous voyez ce qui se passe dans ce problème. C'est, au fond, quoi, la foi chrétienne? Ça consiste à croire dans le mystère des toldot. Et vous voyez comment on vous a mythifié cela, on vous a dessiné ça, on vous a donné un dessin eien, alors qu'il s'agissait d'un dessin eien, la différence, etc. Ces images, vous vous rappelez de ce midrash que je vous ai raconté au début du séminaire, hein? Quand Israël est arrivé au Sinaï, Dieu lui a dit, ben, tu seras sage et tu n'auras pas d'image. Parce que les images, c'est dangereux. Les images, c'est fécond pour la foi. Mais c'est dangereux, c'est porteur de mythes. Et des mythes dévastateurs. Et ces images de la foi chrétienne, en tant qu'image païenne, ont dévasté l'histoire. Vous comprenez le problème? Alors qu'il s'agissait de quoi? Il s'agissait de mythifier, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, donc ce qu'il faut peut-être. Il s'agissait de mythifier et d'adorer, au niveau des images, ce qu'est l'histoire d'Israël, ce qu'est l'étholatrie. Ils ont tenu, scrupuleusement, à nous faire vivre l'histoire comme ils l'ont raconté eux. Et aujourd'hui, ils s'aperçoivent avec stupéfaction que ce juif qu'ils avaient cloué sur la croix, l'effigie d'Israël, selon eux, elle s'est levée de la croix, il est devenu hébreu. Ça, ils sont vraiment désorientés. Alors ils vont... Il y a une tendance à le remettre sur la croix. Faites attention à ça. Bien, alors, on redescend sur terre. Je vais remonter aussi. Bon. Alors là, voilà ce qui se passe. Vous voyez pourquoi on dit Zera Abraham, Toldot Yitzhak. Alors je reviens sur le chiddush que nous avions appris à propos de Toldot Noir. Mais il n'y a pas de mutation d'identité au niveau de Noir. La mutation d'identité, c'est le fils d'Abraham. Abraham s'appelle Père, le premier fils d'Abraham, c'est Yitzhak. C'est lui qui est appelé Zera Abraham, lui-même Yitzhak. Qui be Yitzhak, karel echa Zara. C'est en Yitzhak que t'adviendra une postérité. Ishmaël, c'est la multiplication du fils d'Abraham. Vous vous rappelez de ça? Abraham s'appelait Abraham quand il a engendré Ishmaël, quand il a enfanté Ishmaël. Et elle est appelée, il est appelé dans le texte jusqu'à la fin de Haye Sarah, le fils que Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. À la fin, il reconnaît qu'Isaac est chez lui à Hebron, il est bien le texte, et c'est là que ça s'arrête, la rivalité d'Ishmaël. Et quand vous entendrez parler qu'entre Kiryat Arba et Hebron, n'y a plus les barbelés, vous trouverez que le dernier verset de Chaye Sarah, c'est accompli. Parce que c'est quand même frappant, là de nouveau je reviens à la massivité des événements, c'est quand même frappant que dans ce qu'on appelle soi-disant des territoires, okay, comme si le reste n'est pas des territoires, eh bien, le seul endroit où le gouvernement israélien, déjà du temps du Maharar, a installé une ville juive, c'est quand même Kiryat Arba à côté de Hebron. Ils n'ont pas fait ça à Shrem, ils n'ont pas fait ça à Jéricho, ils l'ont fait à Hebron. Vous allez me dire, ils ont eu Rachid, pas du tout. Ça fonctionne. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez le texte dont je vous parle, Chaye Sarah, hein? C'est quand Ishmaël reconnaît qu'Isaac est chez lui à Hebron, qu'il y a la paix entre Ishmaël et Isaac. Alors, ça se met en place. Vous comprenez? Et votre histoire, vous m'avez raconté de la télévision, hein? Ça c'est les Juifs qui ne veulent pas qu'il y ait la paix entre Ishmaël et Isaac. Et qui disent à Ishmaël, non, c'est toi qui es chez toi. Vous voyez à quel point c'est dangereux. Bien. Okay. Oui. Je suis même pas au courant. Attendez, que je vous pose une petite question. Où ça lui est arrivé, en prison ou... Hein? Oui, mais avant la yeshiva, où il était? C'est pas évident. Non, parce qu'il arrive que de temps en temps, des Arabes qui sont en prison pour terrorisme ou pour je sais pas quoi, se convertissent au judaïsme. Ça arrive, c'est rare, que les conversions soient authentiques. Vous pensez bien qu'on passe ça au crible, okay? On leur fait le test amant pour savoir s'ils sont vraiment aimants. Okay? Mais ça m'étonne. Ça m'étonne, mais si c'est vrai... Hmm? Oui, je vais essayer de voir ça. Si c'est vrai, c'est pas mal. Bien. Alors, vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire que... Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est cette histoire que nous vivons. Elle est écrite dans la Bible. Et nous la vivons exactement comme l'explique le Maharal, une programmation qui s'est déclenchée. Alors si elle s'est déclenchée, eh ben, elle ira jusqu'au bout. Le seul problème, c'est, comme vous savez, à quel prix. Pour ça, personne n'en sait rien. Qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain? Qu'est-ce qui va sortir de là? Est-ce que vraiment un jour la famille du maire de Hebron va dire, allez bon, allez, on ouvre les livres. C'est vrai que c'est vrai. Peut-être. Demain, après-demain, j'en sais rien. Mais vous voyez comment les choses sont. Ken, hein? Oui, mais c'est une mère qui a beaucoup de fils. Il y en a d'autres. Bon. Alors voilà, Toldot Yitzhak, ça va jusque-là? Ah oui, je vais vous l'expliquer donc. Toldot Noach, vous prenez le verset. Comment est le verset? Regardez bien. Elle est Toldot Noach, Noach Yitzhadik. Voilà, on relit. Elle est Toldot Noach, Noach. Les Toldot de Noach, c'est pas autre chose que Noach. Hein? Et il est Tzadik, mais c'est un autre projet. Et ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de Toldot. Alors, la Massora a relié le terme de Toldot à Yitzhak. Et c'est, ça commence par Yitzhak, et c'est Hasser d'une manière, Hasser d'une autre, Hasser à travers toutes les tribus d'Israël, et Tzetzah et Yaakov, jusqu'à ce qu'on arrive à Ruth et Boaz. Et là, le mot de Toldot, la 13e fois dans le Tanakh, est écrit Malé avec les deux vins. C'est l'histoire de l'engendrement messianique.
Bon. Et après Ruth, il n'y a plus rien, après Toldot?
Après Ruth, eh bien voilà.
Et puis, après
cette route, on attendait David, et puis après David, on attend le fils de David. Ça m'appelle une histoire de famille, parce que j'ai un fils qui s'appelle David. Et alors, quand son frère était tout petit, il disait à sa mère, c'est vrai qu'on attend le fils de mon frère. Bien, allez, on revient. Et, on attend le fils de David. Donc, ça veut dire l'homme des temps messianiques au niveau de la paix. Vous vous rappelez de ça? Le premier fils de David s'appelle Shlomo. Bon. Alors, Tzetzah et Yaakov, là, c'est l'expression qu'emploie le texte l'hébreu biblique, enfin le texte de la Bible, pour dire la descendance, une fois authentifiée. Tzetzah, ça veut dire Tzetzah, mais ça s'est embrayé. Les enfants d'Israël. Les enfants des tribus d'Israël, et ceux qui s'adjoignent à eux. Bon. Et ce n'est pas le problème de la troisième qui. Et ceux qui s'adjoignent. Alors ça, c'est effrayant. Et ceux qui s'adjoignent à eux ont ce privilège, comme vous le savez, de commencer avec Abraham. C'est clair. Bon. Alors, si vous voulez, on continue. Là, Aram, Asher, Yoshvim, Bahosher, Notnim, Shitmam, Lisbon, Rola Galut, Ulit Bazot, Mea Odegilulim, Ze Idan, Idnin, Dabarze Vevadai, Moré Aleunatan.
Mais ça, c'est très important. La preuve que ce peuple a gardé la foi, c'est cette perpétuation de son identité dans l'exil. C'est-à-dire, la preuve que c'est une question de foi, que Israël a été porté par la foi des temps messianiques, c'est qu'on a traversé l'exil. Ou je vais le dire encore d'une autre manière, avec le Maharal. La preuve que le Messie viendra, c'est les Juifs de l'exil, qui, dans l'exil, continuent à dire « Animam ». Et qu'est-ce que ça veut dire l'exil, dit le Maharal? Et vous savez qu'il vivait à Prague, au temps de la Renaissance, qu'il était reçu parmi les élites de la ville. Le Maharal de Prague, c'était un Juif illustre, chez les élites de ce temps-là. Vous savez, mais il dit non, nous sommes dans l'obscurité, l'épaule tendue au fardeau de l'exil. C'est ça l'exil. Donc vous verrez un intellectuel juif de Paris parler comme ça. Ils diront, nous sommes en terre d'asile. C'est clair. Et voilà donc la preuve. Alors là, le Maharal situe le temps de la foi. Le temps de la foi, c'est pendant l'exil. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Si vous voulez, je vais prendre un verset qu'il cite beaucoup un peu plus tard, mais on n'aura sûrement pas le temps d'y arriver, dans l'exégèse. C'est un des versets des psaumes qu'il va citer dans un midrash, dans le deuxième paragraphe, qui dit « Lehagin baboker hasdecha ve'emunatra balelo » C'est-à-dire, pour dire, Hazdecha, pour proclamer, les hadiths, Babo, Hazdecha, ta, comment vous traduiriez Hazdecha. Oui, il faudrait traduire comme ça. Ta fidélité au matin, c'est-à-dire le matin, quand il fait jour, qu'on est sorti de la nuit et qu'on voit, alors on dit, bon, ben c'est la preuve que Dieu a accompli sa promesse, il nous a fait sortir de la nuit. Mais pendant la nuit, Emunatra, la confiance que nous avons en toi, c'est-à-dire ta fidélité au niveau de la confiance, pas au niveau du dévoilement. Je répète le verset. Léagid va boker hazdecha vemunatra balelo. La foi en toi, nous l'avons pendant la nuit. Pendant le jour, on voit. Alors, vous voyez, dans le kriachmar, dans les brachot du kriachmar, dans le kriachmar du soir, on dit emet vemuna, le soir. Okay? Le matin, on dit « Emed ve'yassiv ve'nachon ve'kayam ve'yashaver ». Alors, le Kriyat Shema du soir, c'est celui que l'on prononce en rentrant dans la galoute. Le Kriyat Shema du matin, c'est celui qu'on attend comme signe de la délivrance. C'est clair jusque-là? Vous vous rappelez la Gada de Pessah. Jusqu'à ce que leurs élèves sont venus pour leur dire « Ravotenu gia zman Kriyat Shema shel shachrit ». Pendant toute la nuit, ils parlaient de la sortie d'Égypte, jusqu'à ce qu'on ait venu leur dire, à votre nous, il y a un man kriat shemar, le temps est arrivé, kriat shemar du matin. Vous voyez la différence. Alors, je vais vous citer un enseignement qui se trouve dans le Shla, la base est dans le Zohar et dans le Talmud. Déjà dans la Mishnah, dans la Maseret Brachot, on étudie les signes auxquels on reconnaît que c'est le matin. Alors, un des signes, c'est quand on peut distinguer le bleu du blanc. Un truc comme ça, au petit jour. Et alors, la Mishnah dit, « Mishe yakir ben trelet le lavan » depuis qu'il peut distinguer entre le bleu et le blanc. Bon, ça veut dire que si j'ai deux étoiles, une bleue, une blanche, j'arrive à distinguer c'est qu'il fait assez clair pour que je puisse dire le jour a commencé. La Gemara n'est pas satisfaite. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Vraiment deux étoiles distinctes? Ça même, pendant la nuit, je distingue. Alors elle dit, c'est autre chose. Elle dit, dans une même étoffe, qui était blanche, mais qui a été teinte en bleu, de distinguer ce qui est bleu de ce qui restait blanc. C'est clair. Alors là, oui, c'est logique. Bon. Et on apprend d'autre part, c'est ça que cite Lochelard en reliant ces deux thèmes, que la couleur emblématique, je ne sais pas comment dire, de Jacob, c'est le bleu. Pourquoi? Je vais vous expliquer très rapidement. La Gemara et le Zohar disent parce que Trelef domé la Yam, Yam domé la Rakia, et Rakia domé le Kifé Akavot. Le bleu, c'est la couleur de la mer. Cette couleur de la mer ressemble à la couleur du ciel, et la couleur du ciel ressemble, fait penser, au trône de la gloire. Et sur le trône de la gloire, la figure de l'homme, c'est la figure de Jacob, la Merkava. Vous suivez cela? Bon, qu'est-ce que c'est que ce bleu-là? Ce n'est pas une couleur. C'est la couleur que prend la perspective de la profondeur. Si vous voyez la mer en profondeur ou le ciel en profondeur, vous voyez une couleur. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est coloré. C'est la couleur de la profondeur. Et c'est le même mot. Trelet, c'est le même mot que tachlit. Tachlit, que vous avez en yiddish, c'est devenu tachlit. Okay? Tachlit, ça veut dire l'objectif. Ça veut dire la profondeur aussi. Okay? Tachlit. C'est clair? Hein? Non, toi tu traduis en judéo-arabe déjà, mais ça veut dire, quand on veut dire à quelqu'un, bon, parle pratiquement, réellement, oui, nous, tachlit, okay? Alors, ça veut dire, sauf, en fin de compte, de quoi il s'agit, okay? Bon, l'idée c'est que Jacob est le tachlit, tachlito shalom. Jacob est la finalité du monde, alors sa couleur c'est le bleu. Mais vous vous rappelez chez qui il était en exil? Chez un certain Laban. Okay. Laban, bon. Il s'appelait Blanc, celui-là. Et alors, quand c'est le septième heure du matin, quand Jacob sort de chez Laban, quand on commence à distinguer entre Jacob et Laban? Mais et c'est pas facile de distinguer entre Jacob et Laban. Pourquoi? Parce que Laban, d'abord, c'est son oncle. Ensuite, c'est son beau-père. Okay. Ensuite, c'est son goy préféré. Okay. Vous voyez? C'est-à-dire, le jour où on commence à distinguer Jacob de Laban, où Jacob sort de chez Laban, ça c'est le signe du matin, c'est-à-dire du Kriyat Shema du matin. C'est clair? Alors nous, comment on fait ça? On s'enveloppe d'un talit. Il n'est pas d'accord. Alors, comment on fait ça? Ben, on s'enveloppe d'un talit qui est bleu et blanc. Quand on arrive à distinguer le bleu du blanc, c'est le matin. Alors, c'est évidemment par hasard que les couleurs du drapeau d'Israël, c'est bleu et blanc. Bien sûr, c'est par hasard. Puisque d'autre part, ça aurait pu être le drapeau des gendarmes, vous savez, ça. C'est les mêmes couleurs. Bon, avec la fille aînée de l'Église et le fils aîné de Dieu, il se passe. Bon. Et là, mais en fait, vous savez comment c'est arrivé. Au premier congrès de Bâle, alors, on avait tout préparé, on avait oublié de penser à un drapeau. Et la légende dit, regardez comme c'est joli, une légende, que le secrétaire de Herzl avait son talit, il a dit, bon, un drapeau, et ben le voilà. Et puis il a mis son talit devant le balcon. Alors c'est depuis que les couleurs sont restées bleues. C'est un petit peu compliqué. Même s'il avait le talit noir, on l'aurait mis bleu. Non, le talit est bleu et blanc, mais on l'a mis noir et blanc depuis la destruction du temps. En signe de deuil, c'est la destruction du temps. Mais aujourd'hui, on recommence à le mettre. Okay. Bon, là, c'est du bleu qui est devenu noir. Hein. Okay. Dans Shir HaShirim, c'est « Altiruni shani shechabhoret ». Ça veut dire ne regardez pas que je suis devenu bronzé, noirci. Pas ça, c'est la colère de, c'est la suite qui est importante, la colère des fils de ma mère qui m'ont mis comme gardien de leur vigne et ma vigne, je ne l'ai pas gardée. Vous vous rappelez?
C'est blanc, l'origine.
Oui, ça veut dire qu'ici, noir, chez Al-Khored, ça veut dire noirci. Ça veut dire, comment dire, elle était belle, elle ne l'est plus. Et à Midrash qui dit, elle était vertueuse, elle ne l'est plus. Alors elle plaide en disant, même si je suis noir, je suis resté belle. Shechorani venava. Vous connaissez le verset. Il dit, c'est une apparence, ça c'est les cousins qui m'ont mis gardien de leur vigne, et pendant tout ce temps-là, ma vigne, je n'ai pas gardée. Enfin, on peut voir ça au niveau de la société juive. De quoi s'occupent les élites de la communauté juive? De tout ce que vous voudrez, sauf du judaïsme. C'est clair. Et c'est un peu ce thème-là. Carmiche et l'île en attarde. Bien. Quelle heure est-il ? Oui. Vous voyez, j'ai repris mon rythme normal. On fait deux lignes par coup. Non, mais tout simplement parce que on est arrivé à désigner le sujet qui vient à sa place, c'est-à-dire c'est un problème de foi à partir de ce moment-là. C'est clair ? Et regardez, j'ai une explication du marin. Dans le Midrash, c'est dans le Yalkut Shimroni, on va étudier le verset suivant. Et le verset 24 du psaume 31. Alors, le verset dit ceci. Ehevu et Hashem kol chassidav, aimez Dieu tous ses fidèles. Et Mounim, ce sont des gens de foi, notre Hashem, que Dieu engendre, que Dieu fait bourgeonner, vous voyez, notre forme. Oui. Shalem al yeter osegav, et qui paye plus que le prix ceux qui sont orgueilleux. Alors ici on oppose Emunim à osegav. J'ai d'ailleurs au singulier osegav. Ça veut dire ici le Midrash va mettre en évidence l'expression de Emunim, ceux qui sont capables de foi. Bon, Gush Emunim, c'est une coïncidence. Je ne sais pas du tout, peut-être qu'ils ont choisi ce verset, c'est possible. Je ne sais pas. À la prochaine réunion de l'état-major, je me poserai la question. Bon. Mais je crois que c'est purement anecdotique. Et alors, voilà ce que dit le Midrash. Et vous, et Hashem, kol chassidav, aimez Hashem, tous ses fidèles, Emunim non ser Hashem. Dieu forme des Emunim, Hashem forme des Emunim, des gens capables de foi. Et qui c'est ces gens-là? Elou. Shehem Omrim Amen Be'emuna. Ceux qui disent Amen avec foi. Et qu'est-ce que ça veut dire Amen? J'ai la foi. C'est ça que ça veut dire Amen. Je crois. Vous avez compris? C'est le même mot, Amen. Mais ceux qui disent Amen avec Emuna, est-ce que c'est clair l'idée? Okay. Bon. Omrim, par exemple, Omrim Mehayemetim, ils disent dans la prière, toi qui ressuscites les morts, ils n'ont encore jamais vu ça. Et là, les fichards, sinon une fois, autant de les morts qu'a ressuscité Ézéchiel. Okay. Bon. Donc, il dit, c'est arrivé une fois. Bon. Et même cette fois que c'est arrivé, on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors, vous voyez, la foi qu'ils ont, quand ils s'adressent à Dieu, trois fois par jour dans la prière, ils disent, Mechayameti, celui qui ressuscite les morts. Et ils y croient, ils disent Amen. Okay. Mais qui a vu ça? Je reviendrai là-dessus. Ma minim, chez Annie Mechayemetim, ils croient que je ressuscite les morts. Ils n'ont jamais vu ça. Omrim, il dit, Gaal Israël, Goel Israël, qui délivre Israël, Veadrachav, et jusqu'à présent, l'Onigalou et l'Alefishah, ils n'ont été délivrés que de façon contingente, occasionnellement. La sortie d'Égypte, la sortie de Babel. Et ils sont retombés dans l'esclavage, dans l'aliénation de l'exil. Et ils continuent à croire que je vais les délivrer. Regardez ces gens de foi. Alors, de là, tu comprends ce que veut dire le verset. C'est vraiment des gens de foi que Dieu forme, engendre. Ce Dieu qui s'appelle Hachem. Je continue. Jusque-là, c'est le Midrash. Bon, c'est clair. Et où nous avons la preuve de cette foi? C'est la permanence des Juifs dans l'exil. C'est la preuve que les Hébreux ont la foi. Ils acceptent d'être des Juifs dans l'exil. Je disais souvent de cette manière, pendant 2000 ans, tous les matins, on a chanté « Ashrenu, Matom Helkenu, Manaim Goalinu ». Vous connaissez ce chant-là, okay? Ça veut dire, tous les matins, on dit ça. Regardez l'humour juif. Mais depuis 2000 ans, « Ashrenu, que nous sommes heureux ». Matov Helken, que notre part est belle. Manaim Goralenu, que combien est doux notre sort. Qui a dit ça? les Juifs des ghettos pendant 2000 ans. Hein? Regardez-le. C'est clair. Bon, et je suppose que ça a été dit jusque dans les camps de concentration. Bon. Alors voilà, je dis encore cela du Maharav. Beru Bazé, les enseignants de ce Midrash ont expliqué par là qu'il y a Emouna que la foi, ou d'avoir Gadol Meot, c'est une très grande chose. Chehi Ma'amin Bagheula. Chehu Ma'amin Bagheula. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui croit que la Gheula est possible. Parce que la Gheula n'est pas possible naturellement. C'est pas possible qu'un exil prenne fin, selon les lois naturelles de l'histoire des sociétés humaines. C'est pas possible. Goy Mikirev Goy. Et remarquez à quel point c'est difficile. C'est pas possible. Il faut qu'il se passe quelque chose de l'ordre miraculeux. Rappelez-vous la référence. Qui est le Dieu d'Israël ? On ne va pas faire de théologie. On a une référence d'un événement historique. Celui qui nous a sortis d'Égypte. Parce que si ce n'était pas lui, eh bien on serait encore en Égypte, nous et nos enfants, vous vous rappelez la Gada de Pessah. Bon. C'est-à-dire, ceux qui sont capables de croire, où est la foi ? De croire que la Géoula est. De croire en la Géoula. C'est ça la foi, il n'y en a pas d'autre. Commencer à faire des dissertations sur l'existence de Dieu, ça c'est de la philosophie. C'est clair ? Et de la philosophie impertinente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il va exister à partir du moment où j'ai démontré qu'il existe. Ça dépend de ma démonstration. Alors si je crois qu'il existe, il existe. Si je ne crois pas qu'il existe, il n'existe pas. De qui on parle ? Vous comprenez le problème ? Ça, vous ne trouverez pas dans la tradition de Dieu. C'est-à-dire, l'objet de la foi, c'est cette promesse invraisemblable. Vous serez délivré de l'exil. C'est ça l'objet de la foi. Et c'est pourquoi, comme nous disions tout à l'heure, Ken, à la suite de la question de monsieur là-bas, hein, que celui qui ne croit pas en cela n'a pas la foi. Israël. Parce que devant qui nous prions ? On finit de dire Gaal Israël, on commence à donner Fatah. On finit de dire celui qui nous a délivré d'Égypte, on commence la tfila à proprement parler. Vers qui Ada, il n'aura, bien que jusqu'à présent il n'a rien vu. Mais d'abord Zemoré, qui ou d'Abek Boit Barar. Et ce fait-là, que cet homme a la foi, c'est la preuve que Dieu est attaché à lui. Il aurait dû dire que lui est attaché à Dieu. Vous voyez ? Les amrés, complètement. Chez Koltikvato et Tohalto Boit Barar. Parce que tout son espoir et son aspiration n'était qu'en lui. C'est celui qui croit en cette chose invraisemblable, que la fin d'exil des Juifs est possible. Les Kharktiv et Mounim, notaire. C'est pourquoi le verset dit que c'est Dieu qui engendre ces hommes de foi. Shachem Idvarach, Notser Veshomer Oto. Que c'est Dieu qui l'engendre et le protège. Ki Raou, Yhu, Lishmira. Car il doit être protégé. Il croit en une chose invraisemblable. Asherou, Imashem Idvarach. Quoi ? Qu'il est avec Dieu. Velon Ibdal Mito Idvarach, il n'est pas séparé de lui. Kemoshehu et Aimuna. Et c'est ça sa foi. Alors voilà, l'explication, je vais vous la donner. Et puis on va peut-être s'arrêter là. C'est ceci. Oui, c'est que pourquoi on dit de quelqu'un qui a foi en Dieu, ce Dieu dont on parle, qui peut mettre fin à l'exil, et nous ne sommes qu'au premier signe de la fin de Olam Hazé, le commencement de Yemot HaMashiach pour passer à Olam Haba. Enfin, le monde va prendre un sens, d'après la foi ancestrale qui commence à Abraham, c'est-à-dire au premier plan. Eh bien, pourquoi on dit d'un tel homme qui a une telle foi qu'il est un homme de Dieu littéralement ? Parce qu'il croit dans un Dieu qui a la foi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce Dieu-là dont on parle, sa définition, c'est qu'il a la foi. Laquelle ? C'est très simple à comprendre. C'est un Dieu qui a foi en l'homme. Parce que sinon, vous croyez que ce monde continuerait à exister. C'est-à-dire, de qui nous parlons en parlant du Dieu de ce monde ? De quelqu'un, d'une manière d'être qui consiste à avoir la foi. Quelle foi ? Une foi énorme. Avoir la foi en l'homme, que l'homme réussira. Pardon ? Ah oui, ceux qui ont foi en des dieux morts, qui ça commence par Bnei El-Hai. Okay ? Et voyez à quel point nous n'avons rien à voir avec la théologie chrétienne. Alors, rien du tout. Okay ? Bon, parce que, bon, c'est clair. Dans la réalité, il s'agit d'un dieu mort, et en parole, on parle du dieu des Juifs. Il a ressuscité. Vous avez compris le problème ? Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, pourquoi nous avons confiance en Dieu? Parce que nous savons qu'il s'agit d'un Dieu qui a confiance en nous. La preuve, l'existence du monde. Il n'y a qu'à lire le monde. Et ça continue. Hein? Bon, c'est tout. C'est ça le problème. Si un tel monde peut exister, c'est que celui qui l'a créé a vraiment foi. C'est en ce Dieu-là que nous croyons. C'est ce que dit le Maharal. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est avec Dieu. De la même manière d'être en tant qu'homme que Dieu en tant que Dieu. Mais qu'est-ce que c'est ce Dieu? C'est un Dieu qui a foi dans sa créature. C'est-à-dire, il a créé un monde et il lui fait confiance jusqu'au bout. Voilà, ici je pourrais vous citer un grand enseignement du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, sur la vertu de la patience. Bien. On pourrait le formuler de la manière suivante. Regardez quelle patience vous devez avoir vis-à-vis des créatures. Dieu ne supporte pas la faute. Et regardez la patience qui fait qu'il porte le monde. Plein de fautes. Vous voyez à peu près le problème? Bon. Bon, attention, il faut une législation de cela. Hein. Il y a des termes à la patience. C'est la science qui est le contraire de la patience. Mais, enfin, jusque-là, c'est l'enseignement de la vie. Et je me rappelle, je vais terminer là, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient, il y a quelques années, j'ai participé à un colloque d'un forum, ici dans cette salle, où il y avait mon excellente amie Marianne Strass. Et vous y étiez? Bon, oui. Alors, on n'arrivait pas à discuter parce qu'on est amis d'enfance. Vous vous rappelez de cela, Richard? Et alors, il était très gêné parce que la salle attendait qu'il y ait un pugilat, hein, pas moyen. Alors, à la fin, il a voulu quand même ajouter ça, mais vous comprenez, bien que je sois d'accord avec Manitou, moi, je crois pas en Dieu. Alors, ça m'est venu comme ça, je lui ai dit, écoute, ça, c'est pas grave que tu crois ou que tu crois pas en Dieu. L'essentiel, c'est que lui croit en toi. Oui, c'est ça. Alors, lui, il doit croire en toi, puisque tu es juif. Et à la limite, puisque tu es homme et que tu continues à... Voilà, je crois que c'est ça, la définition de la foi. Alors... Écoutez, je ne sais pas comment vous répondre, parce que c'est... D'abord, c'est quelqu'un de connu, mais on ne peut pas désigner. Oui. Mais je vais vous dire, au niveau des problèmes profonds de la destinée, on est devant une porte qui ne s'ouvre qu'à deux. Et moi, je ne sais pas ce qui se passe dans sa famille. Mais, comme dit, je ne sais pas quel roman policier, cherchez la femme. Peut-être c'est sa mère. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, moi, je vous parle d'expérience. Et alors, c'est un problème extrêmement vaste, mais qui ne nous concerne pas, chacun a sa destinée. Bon, vous comprenez le problème. Parce que très souvent, après ça se dévoile, quand quelqu'un commence à raconter ses mémoires, on dit, ah, c'était ça. Bon. Et là, je ne parlais pas de Marien Strass, je parlais simplement du problème en général. Bon, voilà ce que je veux dire. Je voudrais encore ajouter une indication. Vous voyez quelle est cette dialectique? Qu'est-ce qu'on dit le Midrash? Celui qui a cette foi-là, c'est un homme de Dieu, de ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là se définit comme Dieu de foi, El Neeman. Okay? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pas seulement en qui on peut avoir foi, mais il se dévoile comme un être qui a foi en sa créature. Et sa créature est à l'abri de la foi que Dieu a en l'homme. Vous comprenez le... Alors il en réside que si on est un. Je viens de découvrir quelque chose de très important. Dieu a foi en moi. Alors moi je peux commencer à avoir aussi moi foi en moi. Et on évacue le doute. C'est clair? Bon, c'est ça la foi. Bon, tout à la fois. Quel? Qu'est-ce que vous voulez?
Dans la gauche, dans la classe sociale, dans le...
Mais vous savez, on pourrait dire comme ça certainement, et désigner aussi d'autres fois dévoyées, si j'ose dire. Je me réfère aux questions qu'on m'avait posées mardi soir dans la salle, vous rappelez de cela, auxquelles je n'ai pas voulu répondre au niveau idéologique. Mais je ne suis pas compétent sur les événements historiques que vous désignez, c'est-à-dire les propositions des Américains ou des révisionnistes. À ce sujet, ça, je ne suis pas compétent. Peut-être, possible. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, nous recevons en Israël énormément de descendants de bouddhistes, et parfois d'authentiques bouddhistes eux-mêmes, qui deviennent israéliens, et qui deviennent israéliens par l'étude de la Torah. Et probablement, ils ont expérimenté ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'ils avaient pris une fausse piste, enfin un faux chemin. Et probablement toute bonne foi, sans aucun jeu de mots. En ce sens que il s'agit là de ces ratés du messianisme. C'est-à-dire on s'est trompé d'adresse. Un d'entre eux m'a dit ça comme ça. Que ses amis lui demandent, et il disait ça en hébreu, et que ses amis lui demandent, enfin tu es devenu fou, que tu deviens religieux. Il dit non, c'est la même chose. Seulement, Tahiti, Ktovet, je me suis trompé d'adresse. Tahiti à la Ktovet. C'est ça que je voulais, mais je me suis trompé d'adresse. Je ne me renie pas, je suis le même, seulement je suis à la bonne adresse. Vous comprenez à peu près l'analyse. Et là où c'est le plus dramatique, c'est quand ce sont les communistes, les derniers des juifs communistes polonais, qui sont arrivés depuis 3 ou 4 ans, avec énormément de... en se cachant. Parce que vous savez que ces derniers juifs communistes polonais d'il y a 3 ou 4 ans, c'était les pires anti-juifs qu'il y avait dans le monde entier. Vous savez cela. Alors ils sont arrivés, ils nous ont dit, ben voilà, on est là, allez, qu'est-ce que vous allez faire de nous? On leur a fait une fête. Mais vous n'avez aucune idée à quel point ils entrent en colère quand ils lisent ce que des juifs communistes de France ou d'ailleurs écrivent, disent. Eux, ils ont passé par là. Eux, ils savent jusqu'au bout comment, jusqu'où ça va. Vous comprenez? Hein? Par exemple, oui. Et lui, c'était un précurseur, si j'ose dire. Mais alors, vous savez que nous avons une... J'ai oublié comment elle s'appelle, oui. Langer. L'avocat des terroristes, l'avocate, elle est comme ça, une communiste israélienne. Chaque fois qu'il y a un colloque face à face, alors toujours on lui envoie un de ces juifs communistes polonais. J'ai jamais entendu autant d'insultes de ma vie. Vous voyez le drame de ce problème. Tout simplement, ils se sont trompés d'adresse, jusqu'au bout. Identifiez-moi ça.
Non, parce que
en Afrique du Sud.
Non, en Amérique.
Oui. Mais là, on va donner la parole à Michel, peut-être, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire, c'est clair. C'est ça. Non. Mais attendez, vous avez cité le Rabbin Mouk, il est encore vivant?
Non.
Ah, bon. Très bien. Oui, alors écoutez, je veux dire, là, il y a, à tout le moins, une situation d'attente, de perplexité, si vous voulez. Mais chez les bouddhistes, c'était tout à fait autre chose. Chez les bouddhistes, c'était vraiment... Un messianisme dévoyé.
Mais ils veulent rester juifs sans aucune attache avec la Torah.
Ah oui, bon. Et alors, je vais terminer par un souvenir du temps où j'étais à l'Union des étudiants. J'avais un ami, je l'ai toujours d'ailleurs, et toujours ami, qui était communiste français. Et un jour, on était dans les mêmes équipes de militants, un jour il vient me dire, tu sais, je t'en voudrais toute ma vie. Il me dit, pourquoi? Il me dit, parce que depuis que je te connais, je ne peux plus penser aux juifs religieux comme je pensais avant. Alors je lui dis, celui-là, je vais l'avoir au tournant. Alors, au tournant, un jour il est venu, et bien, bon, c'est ce que je vais faire, je rentre à la chômeur à Saïd. Alors j'ai fait une fête, c'est-à-dire marxiste, il est resté, mais dans la maison. Vous comprenez le problème? Alors, si ça vous arrive de convertir à la chemin à Saïr un communiste, vous lui offrez un couscous, il y a droit. Bon. Alors, Shabbat Shalom et à dimanche matin.